Police Sécu, épisode technique, je sais pas, de Frédéric. Comment vas-tu?
Très bien, très très bien.
Oui, aujourd'hui on fait la suite d'hier, parce qu'on profite du FIC pour enregistrer. Hier on a été très prolifique, donc on n'a pas été capable d'enregistrer l'ensemble de ce qui était prévu. Aujourd'hui, on va aborder le fake news, donc ce qui vient conclure essentiellement la série sur l'intelligence artificielle. Du moins, en tout cas, dans l'instant, parce que ça va sûrement réémerger plus tard, mais pour la série actuelle, c'est ça. Donc, je te laisse amorcer avec tout le volet plus fake news, désinformation, tout ce que ça comporte et comment l'IA est malheureusement mis à contribution dans ces choses-là.
Effectivement, le sujet d'aujourd'hui, ça va être ça, la désinformation, l'exploitation, notamment de l'intelligence artificielle à ses fins. Alors, pas uniquement l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que là, ça va être très orienté parce qu'on est vraiment dans notre série sur l'usage de l'intelligence artificielle dans, finalement, tous les sujets liés à la cybersécurité. Et quand on parle de fake news et de désinformation, c'est vrai que c'est intimement lié à la cybersécurité, à des choses qu'on souhaite détecter. On verra un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est... Nous aussi, dans la communauté de cybersécurité, on a besoin d'investiguer ces différents sujets liés aux fake news et à la désinformation.
Oui, puisque de façon collatérale, ça touche un peu nos chances demain pour le spam notamment, parce que ça, c'est immédiatement dans notre domaine. Mais de façon collatérale, ça touche quand même notre environnement, puisqu'on est souvent appelé à intervenir dans ces circonstances-là ou de mettre des moyens à la disposition des gens pour détecter et se protéger contre ce genre de tactiques-là qui viennent de brouiller les cartes.
Exactement. Et alors, pourquoi est-ce que fake news et intelligence artificielle? C'est vrai qu'au début, on peut dire fake news, c'est jamais que générer des actualités ou écrire une actualité. Finalement, un faux journaliste peut très bien le faire, d'écrire une fausse actualité, de la diffuser, etc. Donc, on va revenir un peu sur déjà le processus de diffusion des fake news. C'est quelque chose de... C'est très tactique. Hein, ceux qui font ça savent très bien le faire. Donc, il y a évidemment des acteurs étatiques. Il y a aussi même des acteurs d'influence qui font ce genre de choses. La technique classique, c'est créer des premiers articles, trouver un moyen de les faire relayer. Donc voilà, on détaillera un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour relayer ces articles-là. Et puis après, amplifier un peu le signal pour réussir en fait à avoir des sources d'informations qui reprennent ces articles. Et sources d'informations, quelles qu'elles soient. Et c'est ça qui est intéressant pour les personnes qui font des fake news, c'est qu'en fait, ils vont chercher à monter petit à petit dans la crédibilité de cette nouvelle source d'informations. Pour pouvoir dire, en fait, avoir typiquement un site internet en ligne qui soit à la limite de mauvaise réputation, qui va d'abord reprendre l'actualité. Donc voilà, ça va être un premier relais. Et puis petit à petit, on va avoir un deuxième site qui va être d'un peu meilleure réputation et qui va avoir vu la première, qui se dit « Ah bon, d'accord », et qui va quand même relayer l'information. Et puis finalement, de proche en proche, à chaque fois, c'est pas forcément quelque chose qui est directement influencé par la personne qui a fait la fake news, mais la technique, c'est de dire « En fait, on va monter en confiance petit à petit jusqu'à arriver à un niveau où on va voir un journal on va dire qui a pignon sur rue, qui a une réputation, etc., qui aura vu passer cette information sur plusieurs journaux, peut-être d'un peu moins bonne confiance. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La personne va se dire, un journaliste se dit, si j'ai quelque chose qui vient d'une seule source, je ne fais pas confiance, mais si ça vient de 2, 3, 4 sources, je vais pouvoir commencer à faire confiance. Et en fait, la grosse problématique des fake news, c'est que de plus en plus de personnes vont reprendre ces informations à leur compte, vont les rediffuser, sans forcément dire d'où ça vient, et on va avoir une espèce d'arborescence qui part d'un seul point de départ, qui se divise en plein de relais petit à petit, etc. Alors parfois il va y avoir des articles sur Wikipédia par exemple, des choses comme ça qui vont être mal sourcés, donc ils vont finir par disparaître, par être supprimés, mais entre temps il va y avoir une deuxième source d'information qui aura trouvé cet article là et qui aura fait un article dessus. Et puis parfois on revoit un article Wikipédia apparaître plus tard qui dit la source c'est l'article en question, et si on avait eu le processus complet, on découvre que la source de l'article en question, c'était Wikipédia, c'était un mauvais article, etc. Mais là, du coup, on se retrouve avec un nouvel article Wikipédia correctement sourcé, donc celui-là ne va pas être supprimé. Et puis après, on va avoir un grand journal qui va prendre ça également et qui va faire son actualité. Donc ça, c'est le processus de diffusion des fake news qui fait qu'aujourd'hui, les journaux qui ne font pas attention, et heureusement quand même les grands médias nationaux, etc. Alors, on va essayer de peu citer de noms, je m'excuse par avance si je cite des noms, je m'excuse par avance par rapport à la concurrence. De la même manière, je m'excuse pour tous les noms que nous ne citerons pas. Mais c'est vrai que les grands médias nationaux, aujourd'hui, sont quand même bien sensibilisés à ces sujets-là et font quand même très attention. Et notamment, en fait, ils essaient justement de retrouver la source initiale. Et c'est ça tout leur... Enfin, pour moi, le vrai travail du journalisme aujourd'hui, ça va être justement ça, c'est trouver ces sources initiales et réussir à les corréler avec une vraie information, voir quelque chose sur le terrain, etc. On reviendra un peu sur les évolutions du métier du journaliste, justement, lié à ça. Mais c'est vrai qu'on va avoir quand même pas mal de médias qui vont relayer ces informations. Et le problème derrière, c'est la diffusion justement de ces impressions. Hein. On l'avait, je crois qu'on l'avait un petit peu abordé sur le rôle des algorithmes dans les plateformes. L'analogie que je prends souvent, je me souviens plus, arrête-moi si on a déjà évoqué de ça, c'est la pizza hawaïenne. Je crois pas. Je crois pas. Ça, je,
non, ça, j'ai pas de mémoire, mais on peut se répéter, mais je peux pas m'en souvenir.
Je pense que ça t'aurait marqué. Je pense qu'on a dû l'évoquer un peu dans les préparations de ces différents podcasts. L'exemple de la pizza hawaïenne, qu'est-ce que c'est ? C'est j'aime les pizzas hawaïennes. Voilà, je suis comme ça. Moi, j'aime bien le salé sucré de la pizza hawaïenne. La pizza aux anchois, je suis moins fan. Hein. C'est très salé quand même, c'est différent. Voilà, j'aime la pizza hawaïenne. Et un jour, j'ai créé un compte sur Facebook, etc. Et puis j'ai dit que j'aimais la pizza hawaïenne parce que ça me paraissait pertinent de partager cette information cruciale. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé avec des gens, qui ont partagé mon post. Ils me disent, ah, mais moi aussi, j'aime la pizza hawaïenne. Et puis du coup, j'ai trouvé dans ma communauté comme ça, pas mal de gens qui adorent la pizza hawaïenne. Donc, je partageais leur post aussi, on échangeait dessus, tout ça. Puis par contre, quand je voyais des gens qui aimaient la pizza aux anchois, je me disais, ah, non, ça, je partage pas ça. Voilà. Pizza aux anchois, c'est dégueulasse, c'est hyper salé. Mais moi, je crois dans la pizza hawaïenne. Petite information au passage, la pizza hawaïenne a été inventée au début du siècle, du 20e siècle, en Ontario. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, dans une petite ville de l'Ontario.
Non, donc c'est les Canadiens qui sont responsables certaines personnes, une aberration, mais pour d'autres, un délicieux repas.
Exactement. Les Canadiens sont entièrement responsable de l'invention de la pizza hawaïenne. Il faut le savoir, je pense que ça, par contre, c'est une information importante à partager. Et ce n'est pas une fake news, parce que je l'ai lu sur Wikipédia.
Et encore, tu mentionnais que des fois, c'est peut-être sourcé, de contre-vérifier, voilà. Mais bon, à terme, le Wikipédia a réussi quand même à nettoyer, il faut leur donner ça, mais ça prend malheureusement un peu de temps, mais j'ose espérer que ta source était bonne.
C'est ça. La conclusion de cette série, de toute façon, sera la suivante. Ne croyez pas tout ce que j'ai dit.
C'est excellent, oui.
Voilà, on va terminer ces cinq épisodes sur l'intelligence artificielle par cette conclusion tout à l'heure. Donc voilà, de proche en proche, moi je commençais du coup à avoir de plus en plus de contenu sur mon Facebook, sur mon fil Facebook, sur la pizza hawaïenne, et puis je trouvais ça très bien parce que, Aline, moi j'adore ça. Donc je trouve ça très bien de voir des gens et on en partage, on en discute, où est-ce qu'on peut trouver les meilleures pizzas hawaïennes, tout ça. Et puis petit à petit, j'en suis venu à ne voir plus que ça. Parce que Facebook, l'algorithme de Facebook derrière, il est malin. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va m'afficher des contenus qui vont m'intéresser parce qu'il veut que je reste sur cette plateforme. Et là, on rentre dans le côté intelligence artificielle parce que tout ça sont évidemment faits par des algorithmes d'IA qui essaient de construire mon profil et de me proposer des choses qui vont être adaptées à mon profil. Donc, je voyais de plus en plus d'articles ou de personnes comme ça et puis de moins en moins de choses sur la pizza aux anchois. Et puis finalement, j'en suis venu à un point où je me suis dit, mais ces gens n'existent plus. Tout le monde aime la pizza hawaïenne. Et c'était clairement ma conclusion, parce que je me suis dit, oui, en fait, je vois bien que tous les gens avec qui j'interagis, en fait, adorent la pizza hawaïenne. Et en fait, ça ne me choque pas, et c'est pour moi parfaitement normal. Puis un jour, je suis allé au restaurant, dans une pizzeria. Et là, les gens ont dit, qu'est-ce que vous commandez ? Puis moi, j'ai dit, une pizza hawaïenne, de toute façon, on va tous prendre ça, non ? Et là, les gens m'ont regardé, mais c'est dégueulasse ! Comment tu peux manger une pizza hawaïenne ? J'ai dit, mais comment ça, c'est dégueulasse ? Tout le monde adore. Et là, en fait, j'ai réalisé qu'à force, justement, d'être enfermé dans cet algorithme, j'en étais venu à ne même plus savoir qu'il était possible de ne pas aimer la pizza hawaïenne. Et pour moi, tous les gens devaient absolument adorer la pizza hawaïenne.
Mais c'était une conclusion tout à fait légitime.
Et ce qui était pour moi une conclusion tout à fait légitime. Et alors là, on rigole un peu, on parle de pizza hawaïenne, que j'aime. Je ne suis pas non plus fan complètement de la pizza hawaïenne. Mais j'aime bien quand même. Mais il faut voir que quand on parle de pizza hawaïenne, c'est peut-être pas dramatique, mais si on commence à parler de religion, d'opinion politique, de sujets du genre, etc., tous ces sujets-là, aujourd'hui, le gros risque, la grosse difficulté avec les plateformes qui vont utiliser les algorithmes, alors on parlait des biais hier, un algorithme d'IA en lui-même ne renforce pas les biais. En revanche, la plateforme qui a un comportement qui vient à m'inciter à ne plus rencontrer que des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, renforce ce que je pense de ces centres d'intérêt. Et aujourd'hui, quand on regarde les différents sondages, on va prendre l'exemple américain, parce que l'exemple américain est assez simple en termes de polarisation de la vie politique. Il y a deux partis, clairement. Voilà, c'est très simple. Dans les autres pays, c'est un peu différent. On va avoir deux, trois, quatre, parfois des partis au centre, des partis à l'extrême. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Et si on regarde en fait les sondages qui vont analyser la capacité des gens à hésiter entre les deux partis, il y a 20 ans, en fait, il y avait une proportion assez importante qui était hésitante. Qui disait, oui, bon, bah, la dernière fois, j'ai voté républicain, puis la fois d'avant, démocrate, et puis la prochaine fois, j'hésite encore un peu, etc. Et donc, on avait une espèce de ventre mou, enfin, de ventre dans les statistiques, des gens qui étaient très républicains, des gens très démocrates, et puis une proportion assez importante, hein, peut-être de la moitié de la population qui pouvait basculer de l'un à l'autre. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, cette proportion d'utilisateurs qui est un peu au milieu, qui est un peu indécise, prête à changer, etc., elle s'est drastiquement réduite. Et là, ce sont les statistiques qui le montrent. Hein. Encore une fois, je vous invite à chercher les vraies sources et à vérifier ce que je dis. Mais les statistiques, en fait, les enquêtes statistiques prouvent ça, prouvent qu'aujourd'hui, la vie, notamment politique, est beaucoup plus polarisée qu'elle ne l'a été.
Oui, notamment, puis on le voit, puis là, tu parlais de fabrication, les médias nationaux, c'est un autre problème au niveau américain. Il y a des médias considérés comme étant crédibles qui eux-mêmes vont relayer ce qu'on considère de la désinformation à certains égards ou vont partir des rumeurs de là, de toute façon, au moment où on enregistre, il y a eu le bateau qui a foncé sur le pont à Baltimore et déjà cette frange-là médiatique a déjà commencé à émettre des théories de conspirationnistes qui probablement ont été générées, mais ils vont en multiplier en plus. Fait qu'au-delà du fait que juste l'IA est l'algorithme vient polariser davantage, mais le retour, c'est que plus les gens sont polarisés, plus les gens vont se polariser en renforçant l'algorithme. Donc, on est comme dans un contexte où, on parlait dans l'épisode précédent, où il n'y a pas de biais fondamental dans l'algorithme. Cependant, l'algorithme est représentatif de la communauté. Si la communauté commence à se polariser, comme tu mentionnes, ben on fait juste comme multiplier le problème encore beaucoup plus important que... Il l'aurait été comme dans le 50% qui était prêt à balloter. Là.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un enjeu. Et là, on parle d'intelligence artificielle et désinformation. Et pour moi, c'est vraiment important qu'on ait vraiment ça en tête, qu'aujourd'hui, quand on parle de polarisation de la société et du fait que de plus en plus, les gens ont des opinions tranchées, c'est entre autres dû à ces biais, enfin à ces biais, à ce que les plateformes vont nous montrer et au fait qu'on va être de plus en plus entouré, enfin avoir l'impression en tout cas d'être entouré de personnes qui pensent comme nous. Donc c'est important de garder ça en tête et de se dire ben voilà, comment est-ce que moi je fais pour rester ouvert finalement. Donc moi ça m'arrive, hein, voilà, d'un point de vue, on va dire même opinion politique, de lire des médias qui, alors des médias je sélectionne justement pour rester sur les médias respectables, mais il y a des médias respectables, je pense, avec des lignes éditoriales dans à peu près tous les mouvements politiques, et je trouve ça tout à fait légitime, parce que chacun peut avoir effectivement ces envies-là. Et moi, je m'efforce régulièrement justement à lire des articles qui ne sont pas forcément du média qui va être un peu orienté politiquement par rapport à ce que moi, je vais avoir comme aspiration naturelle, à regarder un peu les autres pour voir bah, comment est-ce qu'eux traitent l'information aussi, comment est-ce que bah, peut-être que moi, je peux ne pas rester trop polarisé, trop biaisé finalement, parce que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, hein. Le fait que je pense quelque chose, donc quand je lis un article, je vais en sortir ce que je pensais déjà, finalement.
Oui, puis ça va aller jusque dans les réseaux neuronaux vont se faire. Plus on se fait justement plus le biais de confirmation se fait, plus la voie s'élargit et plus on est pris avec cet élément-là, plus ça devient difficile d'en sortir. Fait que c'est un problème humain qui est très important. Et comme toi, je lis beaucoup, j'essaie de lire le spectre le plus large que je suis capable, qui n'est pas nécessairement aligné avec mes valeurs ou avec mon orientation politique ou ainsi de suite. Sauf que ça devient aussi également de plus en plus difficile d'aller chercher ce contenu-là qui est en marge de ce que moi, je m'oriente naturellement parce que les algorithmes me rendent ça beaucoup plus difficile d'accès. Alors, parce qu'il faut forcer à aller beaucoup plus loin. Puis ça, ça va être YouTube, ça va être les médias, ça va être les agrégateurs, ça va être tout. À moins d'avoir, il existe des services qui le permettent, mais principalement américains, mais c'est tout. Là. Mais c'est,
alors, il va y avoir ça et il va y avoir aussi le fait que les médias se polarisent en eux-mêmes. Finalement, lorsque je vais lire un article, justement, qui naît, comme tu disais, sur une plateforme qui n'est pas forcément exactement mes valeurs, etc., en fait, l'article va être lui-même aussi polarisé, tellement polarisé dans le sens opposé à ce que moi je vais penser, je ne vais même plus être réceptif au message au bout d'un moment. Il y a aussi ça qui va se passer. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, fake news. Et là, où est-ce que, justement, la partie intelligence revient là-dedans? C'est dans tout le principe des relais. C'est-à-dire qu'une actualité aujourd'hui, pour être visible, il faut qu'elle soit relayée. Relayée sur les plateformes, les médias sociaux, etc. Et aujourd'hui, ça, c'est clairement un des usages de l'intelligence artificielle. C'est la création de tous ces relais-là. Alors, il y a aussi des choses assez manuelles. Hein. J'ai vu assez récemment des gens qui achètent des téléphones en masse et ils font en fait des racks serveurs hein, où ils prennent 30 téléphones Ils démontent complètement. Ils gardent que la carte mère du téléphone. Ils mettent ça dans un rack au format 19 pouces. Ils branchent un truc qui va capter l'écran. Ils branchent un truc qui va pouvoir impulser des actions sur la partie tactile. Et après, ils ont des consoles de gestion où ils vont avoir les 30 écrans des téléphones et ils vont directement pouvoir faire des actions, donc faire du clic, des choses comme ça, directement sur 30 téléphones à la fois, et le tout dans un 19 pouces. Enfin, c'est assez impressionnant en fait de voir l'industrialisation. Donc, ils choisissent bien leur modèle de téléphone parce qu'ils savent bien extraire la carte mère, gérer les entrées-sorties, etc. Et là, on est vraiment sur des fermes de clics. Là, on est plutôt sur du manuel. Mais en fait, la partie intelligence artificielle, elle va beaucoup servir pour quand même créer et alimenter ces faux profils. Parce que les plateformes, évidemment, elles ne sont pas bêtes. Enfin, certaines, en tout cas. Elles vont chercher à supprimer ces différents robots. Donc, elles vont chercher à identifier justement qu'est-ce qui est un faux profil de ce qui est un vrai profil. Et là, la meilleure manière de faire, c'est d'identifier le contenu. C'est-à-dire le profil qui a zéro contenu créé et qui va uniquement relayer des articles, il va être facilement tagué, enfin identifié comme un faux profil. Alors qu'on a un profil qui va générer des contenus de manière régulière, qui va reposter d'autres contenus dans une sphère autour de lui, etc., bah, ça va être beaucoup plus difficile de se dire que ça, c'est un faux profil. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet, honnêtement, assez facilement, hein, de se dire, je crée un profil, je l'alimente de manière automatique, je vais aller chercher des flux RSS d'actualité, comme ça, je fais des petits résumés. Enfin, voilà, avec l'IA générative, hein, c'est très, très simple d'aller prendre des articles, de se dire, voilà, je génère un profil qui va prendre un article par jour, qui va faire un minuscule résumé sur Twitter X, hein, ou sur Facebook, ou sur d'autres plateformes, LinkedIn, etc., et qui va balancer un petit résumé. Et puis, suffit que je choisisse bien mes sources, je vais sur des choses un peu d'opinion, comme ça, je montre un peu que je suis plutôt de telle opinion politique, etc. Et je vais viser, évidemment, les cercles qui vont m'intéresser par rapport à l'influence que je veux donner plus tard. Je crée tout ça. Et puis, bah, le jour où j'ai, par contre, une actualité type fake news que je veux relayer, bah, en fait, j'ai créé un profil qui est dans le bon cercle, qui a été relayé par des personnes de ce cercle-là. Ces gens-là ont commencé à prendre confiance dans mon profil. Et là, paf, je vais balancer des contenus qui vont dans le sens de ce que je veux faire. Autrefois, hein, c'est des choses que, bah, typiquement, les acteurs étatiques, etc., faisaient déjà. Enfin, ça a été déjà démontré. Qu'il y a des acteurs étatiques qui faisaient ça, mais ça prenait énormément de ressources. Il fallait créer des avatars, il fallait les alimenter, etc. Pour peu qu'il faille travailler de nuit pour être sur les bons fuseaux horaires, etc., ça pouvait être compliqué. Aujourd'hui, tout ça peut être complètement automatisé. Et du coup, l'alimentation de ces profils-là, en termes de contenu déjà, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec de l'intelligence artificielle. L'autre chose, évidemment, c'est la partie créer l'avatar. Au début, il faut créer un avatar. Et là, on pense tout de suite à la partie biographie, mais évidemment, la partie photo de profil. Avant, c'est vrai que c'était assez facile d'identifier les faux profils parce qu'il suffisait d'aller chercher, de faire la recherche par image. Il y a des moteurs de recherche inversés qui permettent de faire ça. On met une image, ils vont nous la trouver. Et en fait, quand on avait un doute sur un profil, on prenait la photo du profil, on la met sur ces moteurs-là et paf, on arrive à voir, c'est en fait, elle a été volée sur un profil LinkedIn ou autre. Ça, c'était assez facile. Aujourd'hui, générer des visages, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Je vous invite, parce que l'expérience psychologique est quand même perturbante, hein, c'est d'aller sur un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com. Donc, très facile, vous trouvez sur un moteur de recherche, vous allez trouver, tomber très rapidement là-dessus. En fait, à chaque fois qu'on fait actualiser la page, c'est une nouvelle photo qui apparaît. Et c'est à chaque fois qu'on actualise la page, en fait, il génère une photo par seconde, hein, je crois, ce site-là. Du coup, c'est un nouveau visage qui apparaît. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est psychologiquement perturbant? C'est qu'on est vraiment face à des visages réalistes. Et se dire que la personne que je vois, j'ai vraiment l'impression de voir une personne et d'imaginer une conscience derrière, etc. Mais cette image est purement et complètement générée. Et ça, c'est assez perturbant. Et même, je sais pas, même la Joconde, par exemple, elle a été faite à partir d'un modèle. Même, voilà, les tableaux, alors à part les tableaux abstraits, mais les tableaux en art abstrait, alors déjà, il y en a qui ont été faits à partir de mon modèle, mais en fait, déjà, c'est de l'art abstrait, il y a le côté un peu irréaliste. Aujourd'hui, on a vraiment l'habitude avec la photographie de se dire, si je vois une photo, c'est quelqu'un. Et non, ces personnes, enfin, this person does not exist, voilà, cette personne n'existe pas. Et je peux la regarder pourtant dans les yeux, et elle va avoir des lunettes, plein de caractères faciaux.
Mon nouveau visage, c'est en question, mais pour utiliser un peu les outils de génération d'images, les visages, c'est sont top, là. Puis même pire que ça, on peut aller plus loin. Si on va aller sur une base réelle, on va prendre sa photo, l'injecter dans un modèle comme ça. Il va la transformer. Donc, on est parti d'un modèle réel qui va juste comme manipuler et transformer ça en quelqu'un d'autre complètement. Alors, moi, la blague que j'avais faite, je m'étais transformé en Grinch. Mais ça, c'était pour la blague. Mais le réel, c'est qu'on est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi maintenant. Et c'est vrai, ça là, selon nos récepteurs à nous, comme humains, ça semble vrai, authentique.
Exactement. Et là, on est sur le FIC, le Forum in Cyber, ici à Lille aujourd'hui. Et justement, il y a un stand, c'est sur le stand de DocaPost, en l'occurrence, où en fait, il y a ce qu'il appelle un fake mirror. Et c'est assez impressionnant. Et pareil, c'est très, très déstabilisant. Donc, c'est une webcam et un très grand écran. Et en fait, donc c'est comme un miroir, c'est-à-dire qu'on se voit dedans, mais les visages sont changés. C'est extrêmement perturbant. Alors, en plus, j'ai eu l'impression, là, quand je suis passé devant, que, en fait, tous les visages reflètent la même personne. Du coup, c'est vrai qu'on peut être 5 devant, et en fait, tous les visages sont la même personne, mais un peu modifiés pour ressembler quand même à chacun. Et du coup, moi, je me vois, je suis effectivement habillé comme je suis habillé. Il va avoir les cheveux un peu plus longs parce que j'ai les cheveux longs. Il va être un petit peu barbu, mais en fait, la morphologie du visage, c'est la même que tous ceux qui sont à côté, chacun avec ses particularités. C'est vraiment très perturbant. Voilà, on se dit, mais enfin, je réagis en plus. Enfin, voilà, je me vois dans un miroir, donc je peux faire coucou, etc. Mais clairement, j'identifie que c'est pas moi. Et c'est quelque chose qui se fait très, très bien aujourd'hui. Là, c'est sur cet exemple-là, c'est quelques images par seconde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des moyens de calcul, on peut avoir une vidéo parfaitement fluide et quasiment instantanée. Enfin, les calculs de ce type-là, c'est quelques millisecondes aujourd'hui. Donc, on peut vraiment avoir quelque chose qui ressemble à un miroir très, très bien fait. Ça, c'est vraiment perturbant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça pour moi le principal risque lié aux fake news. On a parlé de la génération des profils, on peut générer du coup des visages, mais même aujourd'hui, on peut générer des images de scène. Et le métier du journalisme, il y a quelques années, en fait, il a beaucoup évolué. Il y a 5-10 ans, en fait, il y a une révolution pour les journalistes qui, je pense, était très intéressante à ce moment-là. C'était de se dire, maintenant, tout le monde va devenir journaliste. Parce que chacun avait dans sa poche un moyen de capter de l'information, de capter de la photo, de la vidéo. Et donc, on voyait ça, mais énormément. C'était devenu, mais il y a même des chaînes qui utilisaient ça énormément sur tout ce qui est journaux quotidiens, etc. De scènes filmées par les gens ou pris en photo par les gens pendant, je ne sais pas, une manifestation, une scène de guerre également, toutes ces choses-là, où en fait, ce qui était diffusé pour avoir les premières images en direct, c'était des choses qui étaient prises par les gens sur place, diffusées sur les réseaux sociaux. Et puis, très souvent, on voit sur les réseaux sociaux des réponses sur les fils de gens. Voilà, je suis journaliste à tel endroit. Dans le meilleur des cas, il y en a qui qui s'embêtaient pas à faire ça, mais je suis journaliste de tel média, m'autorisez-vous à utiliser votre photo, etc. Et ça, quelque part, ça a rendu des millions de gens source d'informations pour le journalisme. Et pourquoi pas, tant mieux. Enfin, honnêtement, enfin, je me dis, on a vu des scènes de violence policière, par exemple, qui ont été vues comme ça. Oui, effectivement, on les aurait peut-être pas vues sinon. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont, à mon sens, assez pertinentes. Mais c'est plus possible. Aujourd'hui, depuis 1-2 ans, aujourd'hui, si moi j'étais journaliste, je ne peux plus faire confiance à ces sources d'information. N'importe qui, on l'a vu sur les différents conflits récents, en fait, il y a une vraie guerre de l'information. Et aujourd'hui, n'importe qui peut générer une fausse image d'une scène de guerre, d'une manifestation, d'une scène de violence policière, un exemple que je donnais, etc., de manière parfaitement réaliste. Et ça va être impossible de discriminer ça. Alors, il y a encore des techniques. On va fermer cette parenthèse très vite. Il y a des techniques qui permettent parfois de savoir si une image est fausse ou pas. Sur les visages, par exemple, ce qu'on disait, c'est les algorithmes de génération d'images sont assez mauvais pour tout ce qui est lien à grande échelle. C'est-à-dire que les yeux vont être très bien, par exemple, chaque œil individuellement. Mais quand on commence à s'éloigner, et du coup, on dit pas mal, regardez les oreilles, parce que c'est ce qu'il y a de plus éloigné sur le visage. En fait, l'IA a beaucoup plus de mal à avoir de la cohérence en fait, sur des zones qui sont éloignées dans l'image. Donc, on se retrouve avec des oreilles pas tout à fait à la même hauteur, avec des boucles d'oreilles différentes parfois, etc. Donc, c'est vrai que les premières versions, c'était assez facile de détecter quand une image était fausse.
Si on prend l'exemple du pape avec la doudoune, quand on regardait proche, on voyait que le collier traversait la doudoune notamment, où il y avait des défauts comme ça qui étaient un peu éparpillés, mais ça c'est ensemble ça, le visage, un exemple, là, tu mentionnes comme ça. Et de mon expérience, le point de vue génération, c'est qu'il va focus, il va mettre beaucoup d'énergie où l'œil humain normalement regarde, il va mettre moins d'énergie ou de perfection où l'œil humain ne regarde pas. Tu parlais des oreilles. C'est pas la première chose. Quand on regarde un visage, c'est pas les oreilles qu'on regarde, c'est les yeux. Les yeux sont impeccables. Là, après ça, quand on va plus loin dans la périphérie, le naturel de l'humain n'est pas là. C'est là où ça devient intéressant pour la recherche, pour la détecter, parce que on regarde où normalement on regarde pas, puis là, c'est là où on voit apparaître rapidement tous les défauts. Et ils sont immenses quand on commence à chercher. Là, c'est, même si au premier regard, elle a l'air parfaite, quand on inspecte les oreilles, les mains, les cheveux, ça ne fonctionne plus. Là, ou même la position du corps, même si du premier regard, elle a l'air cohérente, quand on l'analyse, des fois, elle, juste comme ça devient absurde.
Oui,
ça fonctionne pas. Là. Il y a comme le bras est dans un
le bras tordu. Ça, j'avais eu le cas d'une image que j'ai générée avec moi justement. Avec le bras se retrouvait complètement tordu. Effectivement, autant le visage était vraiment bien, mais autant la posture, la posture est pas tout à fait juste. Il y a aussi quelque chose qu'on entendait beaucoup, c'était tout ce qui est les mains. Hein, regardez les mains. Effectivement, des fois il y avait des mains à 4 doigts, des mains à 6 doigts. Alors là, c'est même allé encore plus loin parce qu'en fait, je parlais de violence policière tout à l'heure. Il y a des gens qui ont dit, qui sont donné cette idée-là et qui sont mis à vendre des faux doigts. Donc ça, on peut trouver ça hein, sur des marketplaces, sur des places de marché, sur Internet. Un faux doigt, donc couleur peau, hein, finalement. Et l'idée, c'est de dire, je vais l'ajouter et je vais aller faire dans une manifestation où je vais être un peu violent, etc. Et comme ça, si jamais il y a des photos ou des vidéos qui sont utilisées pour m'accuser d'actions violentes hein, quelque part et que la police sort ces photos-là, je pourrais dire non, regardez, c'est pas moi, c'est une photo complètement générée, vous avez généré des photos pour me mettre en prison et regardez, j'en ai la preuve, il y a 6 doigts sur ma main. Voilà, donc d'où l'idée d'avoir un doigt supplémentaire pour pouvoir dire que des vraies photos pour le coup ont été en fait générées.
Ça, c'est dans la perspective où la personne fait du obsèque, n'a pas de cellulaire sur elle, n'a rien que la trace, et celle-là
et là tout à fait, là c'est vraiment l'objectif de voilà, de se protéger, de pouvoir affirmer que des vraies preuves sont fausses. Donc, on est quand même dans la malveillance, hein, évidemment, à ce niveau-là. Et pourtant, quand je dis qu'on avait fermé cette parenthèse, c'est qu'il ne faut pas se baser là-dessus, sur toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a rien qu'à voir, là, en 1, 2, 3 ans sur l'IA générative, a fait énormément de progrès. Ces photos-là, notamment les visages générés aujourd'hui, sont beaucoup plus justes. Il y a beaucoup moins d'erreurs. Les mains à 4 doigts, les mains à 6 doigts, ça n'existe presque plus.
Depuis les 6 derniers mois, l'avancée au niveau des doigts, c'est fantastique. Il y en a encore, mais de façon à peu près à 80%, les mains ont l'air réelles avec les bonnes longueurs de doigts, bonne proportion, dans la bonne position.
Exactement. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous vendre encore le fait d'identifier parce qu'il y a encore... Alors voilà, ils vont dire, on va dire c'est plus subtil, il faut aller chercher telle chose spécifiquement, etc. Eh bien, OK, à la limite, ça marche aujourd'hui, mais ça voudra dire que ça ne marchera pas non plus demain. Parce que les algos d'IA, de toute façon, sont entraînés de mieux en mieux pour éviter ce type de problème. Donc moi, ce que je dis généralement, c'est plutôt trouver une autre méthode. Et on reviendra dessus après. C'est pareil pour tout ce qui est identification de texte. De texte généré avec du ChatGPT ou autre. Aujourd'hui, il peut exister des techniques qui vont permettre d'identifier ça, mais ces techniques ne fonctionnent pas de manière suffisamment fiable. Ce qui a été notamment prouvé, c'est que en fait, elle fonctionne bien. Enfin, il y a un biais là pour le coup. Et en fait, on a vu notamment des essais qui ont été faits et qui ont prouvé que ce qui identifiait très bien les algorithmes de détection de savoir si un texte était généré par une IA ou pas, au final, savoir si le texte avait été écrit par un anglais natif ou non, en l'occurrence sur des exemples anglais. Et ben en fait, il s'était aperçu qu'il y avait une corrélation très forte. Je sais plus dans quel sens c'était exactement. Mais en gros, ça veut dire que quand c'était un anglais natif qui écrivait le texte, l'IA disait « c'est pas du contenu généré ». Quand c'est un anglais non natif qui écrit le texte, l'IA dit « c'est du contenu généré » ou l'inverse. Mais en gros, l'idée y est. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce que l'IA était allé chercher dans ses contenus était révélateur de choses qui ne sont pas uniquement le fait que c'est généré par de l'IA. Et donc, il y a eu des cas, il y a eu de nombreux cas en fait de personnes, par exemple des étudiants qui se sont retrouvés accusés de plagiat ou accusés d'avoir utilisé ChatGPT, etc., dans leurs travaux, alors que ce n'était pas le cas. Et pour moi, c'est un vrai problème. Il y a deux problèmes, hein, clairement. Le fait qu'il y en ait qui le fassent, qui utilisent ChatGPT alors qu'on leur interdit, évidemment. Mais il y a aussi le problème d'accuser à tort, finalement, des personnes. Et c'est pour ça que c'est important d'être très vigilant là-dessus. Alors après...
Oui, mais ça, j'avais testé, parce que ça parlait de l'anglais. Il n'est pas bon pour détecter le texte généré en français.
Voilà, et après, évidemment... Et
pour une raison qui est probablement parce que c'est l'entraînement est fait comme ça, il est très mauvais. Mais en même temps, il faut aussi savoir, c'est notamment comme ChatGPT. ChatGPT, il est en anglais uniquement. Son moteur est un moteur anglophone. Il n'est pas un moteur francophone. Il traduit le prompt en anglais est traduit à la sortie dans la langue. Oh, oui. Ben, ça a peut-être changé depuis, mais il n'y a pas si longtemps que ça.
D'accord.
ChatGPT en arrière ne fonctionne qu'en anglais.
D'accord.
Ne fonctionne pas en français. ChatGPT 4, c'est moins apparent, mais le meilleur exemple en ça, c'est quand on a le preview des choses en hystérique. Des fois, il bascule en anglais.
Oui.
Donc, il bascule. Fait qu'il y a cet élément-là. Fait que lui, il traite comme ça. Il y en a d'autres que c'est pas comme ça, puis tout dépendant des modèles, puis j'imagine que probablement Mistral doit être français à la base ou doit avoir une capacité native du français, mais dans le cas de ChatGPT, c'est pas vrai. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça parce que ça devient des textes traduits que ChatGPT nous balance. Donc, la détection devient complètement ratée parce qu'un texte traduit n'est pas la même répétitivité, c'est ça qui est cherché essentiellement dans les algos. Qu'un texte écrit nativement en anglais ou généré nativement en anglais.
Et ça va être le même sujet pour la désinformation, hein, de se dire, on va essayer d'identifier tous ces contenus. Je parlais tout à l'heure de créer des faux profils de réseaux sociaux avec du faux contenu. Voilà, on peut se dire, on va essayer d'identifier tous les contenus dont tous les tweets, etc., ont été générés par de l'intelligence artificielle. C'est voué à l'échec, hein, très honnêtement. Alors après, et on a d'ailleurs un peu évoqué ça dans le dernier épisode, il y a des méthodes pour essayer de s'en protéger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je trouve ça assez intéressant d'ailleurs ce qu'ils ont fait, les grands éditeurs de ces modèles de langage, donc Google, Amazon aussi d'ailleurs, OpenAI, Microsoft, etc., se sont dit, on va mettre ce qu'on appelle du watermark. C'est-à-dire le principe du watermark, c'est le filigrane, hein, c'est de dire en fait, alors sur une image, on arrive, je pense, assez bien à le conceptualiser, c'est de dire en fait sur l'image, on va ajouter des petites différences de couleur ou de forme, etc. On va modifier un certain nombre de pixels qui va faire que pour quelqu'un qui sait ce qu'il faut chercher, il est capable de prouver que la signature watermark a été appliquée. Alors derrière, c'est de la cryptographie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir la clé publique pour savoir que le truc a été signé. Enfin, on retrouve les mécanismes classiques de la crypto, hein, clé publique, clé privée, signature, etc. On retrouve aussi le fait que quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a du watermark ne peut pas savoir qu'il y a du watermark. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que d'un point de vue cryptographique, on sait faire ça.
Ouais, c'est de la stégano à ce moment-là.
Exactement, c'est de la stégano. C'est exactement la même chose. Et donc, il va permettre justement d'appliquer une espèce de signature sur les images. Sur le texte, c'est la même chose. On sait faire la même chose. Alors, c'est un peu plus difficile à imaginer parce que cette fois-ci, on ne va pas... Alors, à une époque, par exemple, on rajoutait des espaces. C'est-à-dire qu'on a dit, on va dire dans le texte, en fait, il va y avoir des espaces en trop à certains endroits. Et c'est les positions de ces espaces-là qui va constituer une signature. Là, du coup, c'est assez facile à imaginer. Aujourd'hui, là, c'est un peu plus subtil. On va utiliser, en fait, c'est plus du probabiliste, finalement. C'est-à-dire qu'on va utiliser certains mots plutôt que d'autres. Des mots qui vont être pseudo-équivalents. Et en fait, on va pouvoir coder. Alors, sur un petit texte, ça va être très difficile. Plus le texte est petit, plus c'est difficile, parce qu'on ne peut pas s'amuser à changer tous les mots, évidemment. Mais en fait, on va pouvoir coder de l'information dans le texte en utilisant à certains endroits des mots plutôt que d'autres. Et du coup, statistiquement, on va être capable
Mais c'est toutes des vieilles stratégies de crypto, de messages codés. C'est vraiment super intéressant.
Et en fait, typiquement, imaginons, l'idée, ce serait de dire, mon message, s'il est signé, c'est complètement schématique, hein, dans la réalité, c'est pas ça, mais ma signature, ça va être de dire que les mots, tous les 5 mots, donc multiples de 5, ont plutôt un nombre pair de lettres. Voilà, imaginons que je dis ça, ça va être ça, ma signature. Du coup, quand je vais écrire, je vais me débrouiller pour que tous les 5 mots, quand j'ai le choix entre deux mots, je mets un nombre pair de lettres. À la fin de mon texte, donc c'est là qu'on comprend aussi qu'il faut un texte potentiellement suffisamment long, on va regarder la statistique, et si, en fait, les mots, tous les 5 mots, dans 95% des cas, ont un nombre pair de lettres, ce qui statistiquement est complètement illogique, hein, normalement ça devrait être à peu près 50-50, et bien quelqu'un qui connaît ma méthode de codage pourra dire, ah bah oui, ok, là c'est un texte écrit par Frédéric Grelot, parce que je sais que tous les 5 mots, il y a plutôt un nombre pair de lettres avec une confiance associée, etc. Bon, c'est très très schématique comme manière de faire. Dans la réalité, c'est un peu ce type de choses qui est employé.
Oui, puis je le vois notamment, j'ai ChatGPT en tête parce que c'est un que j'utilise le plus pour m'amuser. Et en français, il y a des mots très caractéristiques qui ressortent régulièrement.
Exactement.
Et sont trop faciles à détecter pour moi. Parce que sont typiquement de la langue du français de France et non du français du Québec. Donc, incidemment, je lis ce mot-là, pour moi, est anormal, mais il est à 80% dans les textes.
Ouais.
Tout le temps.
Moi, j'ai fait l'expérience une fois. Hein. J'avais fait un post LinkedIn une fois. Je me suis dit, allez, je vais essayer de faire générer un post LinkedIn par ChatGPT. Et en fait, je l'ai identifié tout de suite, visuellement. Je l'ai quand même fait. J'ai quand même posté, puis j'avais mis un commentaire après qu'il avait été généré. Et en fait, ce qui a été intéressant, mon retour là-dessus, c'est qu'il a eu beaucoup moins de visibilité. Donc apparemment, ouais. Je ne suis pas le seul à avoir identifié qu'il a été vu, enfin qu'il a été généré par ChatGPT. Soit LinkedIn lui-même l'avait identifié, soit en fait les gens même le voyaient. Et enfin pour moi, ça paraissait assez évident qu'il était fait par ChatGPT. Bon après, il y a des méthodes pour faire mieux quand même. Et je sais qu'il y a des gens qui font que des posts faits par ChatGPT. D'ailleurs, ça se voit assez bien. Hein. Récemment, j'ai signalé à quelqu'un parce que j'ai vu un post sur LinkedIn justement, donc assez long. Je l'ai lu, il était pas trop mal fait. Et puis en fait, à la fin, il y avait marqué le post ci-dessus reflète bien l'idée que machin, tout ça. Et en fait, ça, c'est la conclusion que ChatGPT avait ajoutée pour expliquer à la personne qui avait posé une question, est-ce que tu peux me générer un post ?
Faut faire très attention.
Et ChatGPT va conclure en disant ça. Et le gars avait fait copier-coller directement dans LinkedIn. Et j'ai vu ça, je fais non, relis-le au moins quand même. Hein.
Faut l'humain nécessaire, faut relire, ça c'est inévitable. Je l'utilise quand même passablement et je revise tous les textes, les phrases, je retire les mots qui me semblent anormales, qui ne concordent pas avec mon style d'écriture. Donc, je retouche suffisamment que, dans le cas des algos que tu mentionnes, je passerai en dessous parce que j'ai suffisamment remodifié. Mais non, j'ai vu plein de cas abominables. Ouais. D'utilisation un peu trop direct là.
Mais donc voilà, donc ce que fait aujourd'hui ou ce qu'ils vont faire, je sais plus hein, où est-ce qu'ils en sont là-dessus, c'est qu'en fait les grands là qui font ces modèles de langage en fait se sont dit on va se mettre d'accord en fait sur un protocole, sur une méthode de watermarking justement, et on va tous l'appliquer. Je trouve ça très intéressant parce que effectivement ça permet d'identifier probablement peut-être 95% des contenus qui vont être générés avec ces outils là, et ça c'est important parce que aujourd'hui, on a une vraie problématique en machine learning, en intelligence artificielle et notamment en IA générative, c'est de savoir que nos algorithmes, en fait, futurs, dans quelques années, bientôt, ils vont être entraînés avec des données qui ont été générées par ChatGPT. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un peu comme quand vous faites de la physique. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des échantillons de matière qui datent des années pré-1920-1930. Pourquoi ? Parce que 1930, c'était les premiers essais nucléaires. Et en fait, la matière, on va dire, en surface post 1930, ou je sais plus quelle année c'était, 30, enfin, c'est, oui, peut-être 40 parce que c'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, j'ai plus les années en tête. Et en fait, la matière post-ère nucléaire a été polluée d'un point de vue radioactif. Et donc, rechercher des échantillons qui datent d'avant pour des géologues, pour des physiciens, parfois ça peut être important. Et ben là, c'est pareil. Il y a le côté post-ChatGPT de notre donnée sur Internet, oui. Où il faut être capable de dire, en fait, toutes les données qui datent d'avant, on sait qu'elles ont été générées par les humains, toutes celles d'après, on n'en est pas sûr.
Oui, il y a ça. Puis moi, l'exemple que je donne, c'est les co-sanguins. C'est que le AI ne peut pas s'entraîner sur lui-même. C'est comme la co-sanguinité chez l'humain ou chez n'importe quel mammifère. C'est que ça vient vicier le potentiel génétique jusqu'à causer des maladies génétiques très, très graves. Le Québec, on l'a vu dans certaines régions éloignées. L'Europe l'a beaucoup vu avec les mariages co-sanguins au niveau de la royauté, par exemple, où il y a eu certaines branches qui n'étaient pas très, très éveillées, disons, sur certaines choses.
Exactement. Et là, c'est la même chose, ça a déjà été démontré. Hein. Réentraîner des intelligences artificielles sur des contenus générés par des intelligences artificielles dégrade la qualité des résultats futurs. Et finalement, je me dis, moi, j'aimerais bien que ça se démarre. Alors, le problème, c'est qu'il y a un côté de traçabilité. À partir du moment où on fait ça, hein, c'est qu'on va pouvoir tracer aussi des documents. Dès qu'on met du watermarking, etc. Mais d'un côté, ça veut dire que dans les contenus futurs, on pourra faire le tri d'exclure les contenus qui ont été générés par ces intelligences artificielles. Alors ça, c'est une chose. Donc on pourrait dire, OK, problème résolu, hein, finalement. Nos détecteurs d'IA, ils n'auront qu'à détecter le watermarking, etc. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est faux, parce que ce sera vrai pour les grandes plateformes. Et comme je disais hier sur tout ce qui est jailbreak de modèles, injection de prompt, etc., aujourd'hui, je peux, moi, déployer mon propre ma propre IA générative sur mon propre système, mon propre data center, c'est ce qu'on a fait nous d'ailleurs. Hein. Nos développeurs aujourd'hui, ils ont accès en interne à l'IA générative. Et du coup, en fait, j'en ai la maîtrise complète. Et ces techniques-là, en fait, c'est pour la majeure partie du post-processing, c'est-à-dire que c'est après la génération par le moteur ChatGPT qu'on va forcer, alors ça va être dans l'exploitation des probabilités générées par ChatGPT, qu'on va forcer en fait des conséquences statistiques, etc., pour pouvoir signer et pouvoir marquer après. Donc aujourd'hui, si moi je déploie ma propre IA, je peux de toute façon le faire sans ces watermarking. Ce qui veut dire que c'est comme, quand je disais tout à l'heure, les méthodes pour détecter si les photos sont vraies ou pas, etc., c'est des méthodes qui marchent dans un certain sens et à une certaine limite, mais il ne faut absolument pas qu'on se base là-dessus, parce que si c'est ça notre méthode pour savoir si des contenus sont générés ou pas, on va être sûr que ça va être, enfin, que c'est complètement contournable. Il y a eu des acteurs hein, plutôt malveillants qui ont mis à disposition des IA. Alors, si le nom c'était FraudGPT, je crois, c'était ça. Bon, en fait, c'est un ChatGPT like basé sur un modèle open source et ils ont supprimé tout ce qui est protection à l'injection. Évidemment, ils sont pas en consortium avec Google, Microsoft et compagnie pour ajouter du watermarking. Et donc, bah, il est évident que quelqu'un qui a des intentions, des mauvaises intentions, va bien sûr utiliser plutôt ça que ChatGPT. Ce qui ne veut pas dire que la démarche soit négative. Je veux dire, pour 95% des contenus, pourquoi pas, mais ne prenons pas ça pour acquis.
Oui, ben c'est la même, je vais faire le parallèle, à la même évolution aussi, dans le même sens, où la détection des virus informatiques se faisait sur ce principe-là avant. C'est-à-dire, on détectait le code qui nous permettait de repérer ce qui était du code malicieux. Maintenant, on est plus à l'inverse. On va aller chercher beaucoup plus ce qu'on appelle du whitelisting, finalement. C'est confirmé. Puis c'est là où, justement, la limite de la détection se frappe. On va frapper comme pour les virus informatiques. On va frapper une limite de détection à un moment donné qu'on ne pourra jamais dépasser. Puisque il y a des acteurs qui ne respectent pas les règles parce qu'ils vont trouver des nouvelles façons de se cacher. Ils vont, disons, utiliser à travers ChatGPT, mais ensuite ils vont avoir une transformation qu'ils vont exécuter eux-mêmes après pour retirer tout ce qui est potentiellement du watermark. Fait que c'est ça. On va tranquillement trouver. Donc, on est à peu près sur la même course que les antivirus ont eu jusqu'à maintenant les nouvelles évolutions qu'on a dans les nouveaux outils qu'on a dans les mains. Là.
Effectivement, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, parce que ça, enfin, on a fait des travaux de recherche justement sur ces parties-là, de comment est-ce qu'on peut, bah, pour le coup, avec de l'IA justement, détecter non pas le fait qu'un fichier soit malveillant parce qu'il est connu, parce qu'on l'a déjà vu, etc., parce que c'est une technique connue, mais plutôt comment est-ce qu'on peut, bah, un peu comme l'être humain hein, qui fait de l'analyse de malware, comment est-ce qu'on peut détecter le caractère malveillant d'un fichier. Et donc vraiment être capable de détecter que oui, ce fichier, en fait, comporte de l'action malveillante et correspond à une action malveillante. Et ça, effectivement, c'est des choses, je pense, sur lesquelles on reviendra dans une session suivante, évidemment. Et donc, sur cette partie-là, voilà, pour moi, c'est important de ne pas se baser uniquement là-dessus. Le risque, du coup, c'est de se dire qu'on va s'habituer au détecteur. C'est-à-dire que si, par exemple, justement, toutes ces plateformes se mettent d'accord sur les méthodes de signature, et du coup, présente quand les contenus sont signés quelque part et qu'on se retrouve sur un petit encart quand on est sur X, sur Twitter ou sur LinkedIn ou autre, avec un petit encart qui dit ce contenu a été généré par une IA parce qu'ils sont capables de le détecter. Le problème, c'est que le jour où on ne le voit pas, on dit « Ah bah c'est bon, c'est du contenu légitime. » Alors que c'est faux. Voilà, comme je viens de le dire, on a quand même toujours ce risque qui va exister. Et donc, il ne faut pas non plus qu'on s'y habitue. C'est-à-dire que Il faut qu'on soit capable de l'utiliser parce que ça va réduire un peu la quantité de contenu poubelle, hein, on va dire. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas ça qui va tout révolutionner. Pour moi, en fait, ce qui va être vraiment importante, et on va approcher justement de la conclusion sur cette partie des désinformations, c'est qu'il va falloir changer notre manière de considérer la confiance qu'on est capable de donner dans une information. Aujourd'hui, c'est vrai. Quand je lis une information, la confiance que je lui donne va être intimement liée au fait justement qu'il y ait de la photo, qu'il y ait de la vidéo. On ne va pas beaucoup remettre en cause le fait qu'il y ait de la photo ou de la vidéo. On commence justement, ça y est, on commence à avoir les réflexes de dire, est-ce que, enfin on l'a vu sur les conflits, différents conflits armés ces derniers mois, comme il y a eu une avalanche de contenu généré, etc. Ça y est, maintenant on se dit, juste le fait qu'il y ait une photo témoin n'est plus suffisant. Une vidéo, ça peut faire l'affaire. Maintenant, là, ça y est, on commence à se dire, juste le fait qu'il y ait une vidéo témoin n'est plus suffisant, etc. Donc, il faut arrêter, effectivement, de donner cette confiance-là aux médias type photo ou vidéo, aux médias, je veux dire, à la donnée, hein, type photo et vidéo. Et donc, sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour savoir si une information est légitime ou pas? Pour moi, c'est quelle est la conscience que je peux donner dans la source et éventuellement dans les intermédiaires. Et si moi, je sais que, je sais pas, voilà, en cybersécurité, quand je lis un article de Martin Utnersinger, je sais qui c'est, je l'ai déjà rencontré, et c'est quelqu'un de très bien d'ailleurs, et du coup, je me permets de le citer, donc journaliste au Monde en France. Et voilà, je sais que ses articles sont de qualité. Je sais que quand il fait un travail de recherche, il va aller chercher les vraies sources, il va aller les confronter, il va aller les croiser, il va les citer, il va indiquer quelles sont les sources, etc. Et aujourd'hui, si je lis un article de Martin Utnersinger, je ne me pose pas de questions à savoir s'il est véridique ou pas. Je peux éventuellement me poser des questions sur l'orientation politique ou autre qu'il peut y avoir derrière. C'est le journal Le Monde, il a sa ligne éditoriale, etc. Alors, il écrit aussi de manière indépendante. Mais voilà, je peux me poser ces questions-là. Mais je sais que c'est quelqu'un qui fait un effort journalistique. Et donc, je ne vais pas aller chercher à vérifier l'authenticité de son texte, finalement. Je vais éventuellement vérifier que les intermédiaires qui m'ont envoyé le texte ne l'ont pas modifié. Mais de base, en fait, je vais pouvoir lui faire confiance.
Et mais ça devient de plus en plus difficile. Puis moi, le virage, je l'ai fait avant toute la notion que l'intelligence artificielle vienne corrompre les sources. C'est essentiellement les élections, c'est essentiellement l'arrivée de Trump au pouvoir. Et ce qui a mené notamment tout ce qui a suivi le confinement, ainsi de suite. Juste les données confinement, j'ai trouvé ça très difficile parce que là, on était dans le début de l'industrialisation du fake news américain. Et là, un article n'était plus suffisant pour corroborer l'information. J'avais lire d'au moins deux sources distinctes et pour être capable de corroborer. Et pas deux sources qui citent la même source. Deux sources qui ont été capables d'être sourcées à deux éléments indépendants distincts. Là, ça devient énormément fatigant parce que moi, ça m'a énervé. Là, mais
Et en plus, dans cette période où il était difficile de se déplacer, c'est-à-dire que même les journalistes sur le terrain, c'était difficile d'aller couvrir un événement, etc. Donc, évidemment, ça rajoutait la difficulté. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même ça qui est très, très important. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est est-ce que je fais confiance à la source? En termes de technologie, voilà, parce que la technologie résout plein de problèmes, c'est un nouveau problème que la technologie va résoudre, etc. Je n'y crois pas trop, hein, très honnêtement. Hein, je ne vois pas aujourd'hui de technologie qui vont nous permettre de résoudre ce problème-là. Il y a quand même des choses, et je vais quand même en citer une, parce que celle-là, je la trouve assez pertinente. C'est pareil, ça va peut-être permettre de traiter 99% du problème. C'est sur les photos, en fait. J'avais déjà évoqué ce sujet il y a un peu plus d'un an, et pour moi, la conclusion, c'était, une des conclusions, c'était peut-être qu'au niveau de la photo, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'on peut faire signer les photos par les appareils photo. Et là, j'ai trouvé ça il y a quelques mois à peine. Donc j'étais très content de me dire que j'avais plutôt bien anticipé apparemment. Et de toute façon, c'est tout à fait logique hein, de leur part. Les éditeurs d'appareils photo de professionnels, hein, donc Sony, Canon et compagnie, en fait, travaillent justement sur des puces de chiffrement et de signature électronique qui vont du coup ajouter dans leurs appareils pour vraiment à la sortie du capteur, voire j'espère dans le capteur, être capable de signer immédiatement la photo. Et comme ça, on va prouver qu'elle est authentifiée. Potentiellement, alors après, pareil, hein, le curseur à mettre entre traçage potentiel, utilisation de ces algos-là pour du traçage, etc. Je pense que c'est un curseur à bien mettre. Il faut bien mettre la position. Mais de pouvoir se dire, voilà, quand je visionne cette photo, donc pareil, c'est sans doute du watermarking d'ailleurs, hein, quand je visionne cette photo, je peux potentiellement même savoir qu'elle a été prise avec l'appareil photo de tel journaliste ou de tel photoreporter. Et là, effectivement, on a quelque chose, à mon avis, d'assez pertinent. Mais le problème, hein, c'est que ça va réduire le nombre de photos. Enfin, parce que ça veut dire qu'il faudrait que tous les photoreporters, etc., et ces appareils-là, ça va probablement être difficile. Et ça veut dire qu'on supprime complètement la possibilité d'avoir des photos prises par des personnes justement sur place, etc. Alors qu'il peut y avoir des personnes de confiance qui prennent des photos avec un appareil, avec un téléphone. Hein.
Dans les téléphones, ils vont probablement l'injecter dans les téléphones.
Et peut-être qu'ils le mettront.
Je suis convaincu que Samsung puis Apple vont intégrer ces technologies-là aussi pour faire partie. Mais là, où tu parles au niveau de la traçabilité, puis moi, ce qui est inquiétant, c'est que ça devienne obligatoire.
Et
que ça devienne optionnel. Parce que dans un univers comme celui-là que tu mentionnes, la photo journalistique, elle, on veut qu'elle soit tracée. De toute façon, c'est la nature même de ce que c'est. Puis on veut trouver la source. On a besoin. Mais moi, quand je prends les photos de mes enfants, je veux pas que ça soit tracé. Fait qu'on est dans la chose, puis on n'est pas dans un univers où j'ai besoin d'avoir confiance que la photo est vraie, parce que je l'ai pris. C'est moi, ou j'ai partagé à mon entourage, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, on parle de médias de masse. Moi, je suis ultra favorable que, à la limite, qu'un interrupteur. Mais les journalistes vont nécessairement l'activer parce que c'est leur crédibilité qui va. Il y a un incitatif pour eux, et donc, comme consommateur de nouvelles, je vais te donner un poids beaucoup plus important à une nouvelle avec une photo qui a été authentifiée par l'appareil, par tout ça, qu'une photo ou une vidéo aussi, là, qui ne l'a pas été. Fait que, ça vient aussi, ça va aussi biaiser énormément le monde des médias. C'est des modifications très importantes qui règlent le problème qu'on parle actuellement, mais que les effets de bord qu'on ne peut pas prévoir d'avance vont être spectaculaires. Comme l'intelligence artificielle, on peut prévoir que ça allait verser comme ça, mais on ne peut pas prévoir ce que ça nous mène dans les présentement. Là, on est en train de découvrir ce qui se passe. Et ça aussi, j'ai l'impression que ça va amener un changement social qui va être quand même assez, assez structurant, mais comme l'intelligence artificielle, de toute façon.
Oui, mais complètement. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, encore une fois, c'est que quand je dis que ça va résoudre 99% du problème pour les journalistes, c'est qu'effectivement, ça va faire que n'importe qui ne pourra plus de chez lui générer de la photo, générer de la fausse photo, etc. Donc là, effectivement, on va supprimer une grosse partie du problème. En revanche, il faut quand même garder en tête que à partir du moment où un dispositif est mis dans les mains de tout le monde, il est aussi cassable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont experts de sortir une puce, la décaper, l'analyser, la reproduire, etc. Ce qui veut dire que les puissances étatiques, pas toutes non plus, mais certaines puissances étatiques, avec des intentions malveillantes, pourront également acheter des appareils photo, décaper les puces, sortir les clés de cryptographie et faire comme ils faisaient avant, c'est-à-dire générer des photos complètement fausses du dirigeant étranger en train de serrer la main d'un je ne sais qui, la signer correctement et dire voilà, c'est une photo prise avec un appareil photo Sony machin truc, signé, etc. Donc c'est une photo réelle. Ce sera toujours possible. Mais la vraie différence, c'est que ce ne sera pas n'importe qui dans son garage, ce sera vraiment des puissances qui sont capables de faire ça. Et après, voilà, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudront qu'ils achètent à chaque fois un nouvel appareil photo ? Parce que sinon, bah voilà, s'ils décapent un appareil photo, ils ont une clé de cryptographie. Et si pendant les 6 mois qui suivent, à chaque fois qu'ils font des fake news, etc., ils utilisent la même signature, bon, bah ça va être complètement grillé. C'est-à-dire que tout le monde saura que cette signature-là est compromise et qu'il n'y a aucune confiance à avoir. Donc, ça reste quand même un travail qui sera probablement important, mais qui sera à la portée de ces acteurs-là. Ou en tout cas dans une certaine mesure. Et à mon avis, ils l'utiliseront de manière extrêmement ciblée, juste sur un besoin. Et j'ai envie de dire, même si les gens remettent en doute et disent « Mais non, c'est pas possible, elle est forcément générée, etc. » Et puis on va retracer l'appareil photo, on va voir que le journaliste n'existe pas, le mal sera fait. Et en fait, 90% des utilisateurs ont vu que c'est signé. Enfin voilà, si on affiche vraiment toutes ces informations, en fait, clairement, tout le monde aura cru que le dirigeant a serré la main, etc. Et c'est toujours pareil, hein. L'énergie à déployer pour contrer une fake news, c'est généralement à peu près 10 fois l'énergie employée pour la générer. Et donc, le mal sera fait quelque part. Donc, il faut aussi le garder en tête. Donc, voilà un peu pour cet épisode intelligence et artificielle et des informations, hein. Le mot, effectivement, à garder en tête pour moi, c'est dans cette nouvelle ère où il va y avoir beaucoup d'informations générées, enfin, où il y en a déjà énormément, hein, d'informations générées, le phénomène de crédibilité, effectivement, est essentiel. Et il faut qu'on repense chacun, hein, je pense chacun, notre manière de comment est-ce que je donne du crédit à des sources. Il y a eu des travaux là, de recherche très récents sur justement aussi tout ce qui est paternité d'articles, citation d'articles scientifiques. Et c'est tout bête, hein. Mais quand un article scientifique aujourd'hui prend un postulat et qu'il va citer un autre article, aujourd'hui, il y a des problèmes en termes d'archivage de tous ces articles-là, parce que comment est-ce qu'on est capable de retracer l'arbre généalogique de tous ces articles scientifiques pour s'assurer que tout est vrai dedans ? Voilà, il y a de la place encore pour de la réflexion. Et je conclurai juste en disant une chose que j'ai un peu dite tout à l'heure. Dans toute cette série sur l'intelligence artificielle, nous avons dit beaucoup de choses. Peut-être que tout n'est pas vrai. J'espère que tout est vrai. On a dit, voilà.
Peut-être qu'on n'est pas des vraies personnes.
Peut-être que nous ne sommes pas des...
On est des voix générées qui donnant des... faisant un sujet.
Exactement. Donc, venez nous rencontrer physiquement hein, sur des événements, justement, comme le FIC, Forum de Cyber, etc., que ce soit en France ou au Canada, en l'occurrence, à Montréal, pour confirmer...
Ou à Toronto,
pour moi. Donc, pour confirmer qu'on existe vraiment. Oui. Et puis, bah, surtout, vérifier les informations. Voilà, toutes les choses qu'on a dites. Moi, j'ai à peu près confiance dans tout ce que j'ai dit. J'ai pu aussi faire des erreurs. Et voilà, l'erreur est humaine. On parlait d'hallucination dans le précédent épisode. Le principe de l'hallucination, c'est de ne pas savoir qu'on dit quelque chose de faux. L'être humain sait a priori, enfin, dans une assez bonne mesure, quand il a un doute sur ce qu'il dit, mais ça nous arrive aussi de nous tromper. Voilà. Et c'est naturel. Et ça nous arrive aussi à nous.
Oui, mais c'est pas avec le même degré, mais c'est ça qui est intéressant. Puis effectivement, c'est où j'allais conclure dans la même direction. C'est moi, je suis rendu dans un univers où la confiance est construite sur le rapport où je vois la personne. On est retourné, puis c'est ça, c'est ultra contre-intuitif. Sorti du confinement, on a fait du virtuel, tout ça. Il y a des gens que, puis c'est drôle, on en parlait avant, que je n'ai jamais vu en visio parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur caméra. Et là, à quel point cette personne-là est vraie. Et là, on est dans un univers de puis même à la limite, elle avait sa caméra, puis ça peut être une fausse image aussi, là. Mais le réel, c'est que là, je te vois. Fait que là, j'ai fondamentalement beaucoup plus confiance en ce que tu dis. Parce que tu existes. Et je sais que c'est faux. Puis on est aussi peut-être à cet univers-là où l'intelligence artificielle va nous obliger à augmenter le nombre de contacts humains pour être capable de reconstruire ce qu'on avait avant. Les réseaux de confiance qu'on avait avant étaient basés sur des humains. Tu vas me dire quelque chose, je vais lui donner confiance et je vais pouvoir m'appuyer dessus parce que ça vient. Je sais que j'ai confiance en toi. Et ce que je veux dire, ben oui, Frédéric me l'a dit et donc j'ai confiance. On fonctionne beaucoup comme ça aussi en tant qu'humain. Et je pense qu'on va retourner à des méthodes plus traditionnelles d'établissement de la confiance, qui est un peu à l'opposé des médias de masse et de ce qu'on s'en va, mais bref.
Et tu parlais de Teams, enfin des visioconférences, hein. Ça me fait penser, on a oublié de citer un exemple qui est, à mon avis, vraiment à avoir en tête. Il y a une personne un jour qui a reçu une demande de réunion qui lui paraissait un peu bizarre. Voilà, elle s'est dit, c'était pas le bon, tout ça. Je lui ai dit, bon, bah, j'y vais de toute façon. Il est allé à cette réunion et là, il a retrouvé en fait tout son staff, tout son codir. Son comité de direction en face de lui, en visioconférence, hein, donc avec les caméras, et en fait, qui a parlé d'un projet, etc., et qui disait qu'il fallait payer un prestataire et donc faire un virement de 25 millions de dollars. Et il a fait le virement. Et en fait, après, il a appris que toutes les personnes qu'il avait vues étaient complètement générées. C'est-à-dire, ce n'étaient pas ses collègues. Et là, on est sur la génération de vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des acteurs qui étaient filmés avec des algorithmes, justement, de modification de visage. Et alors là, c'est complètement vous. Moi, ça m'a assez bluffé parce que je savais que c'était possible. Voilà, depuis un an, on sait que c'est possible. Ça, c'était il y a 6 mois à peu près. Mais en fait, je n'avais pas réalisé qu'il y aurait déjà des puissances suffisamment établies pour mettre en œuvre l'énergie nécessaire. C'est assez compliqué à faire quand même, hein. C'est possible techniquement, mais c'est toujours pareil. Entre un papier scientifique, entre même une preuve de concept, et le fait que des gens l'aient fait, et là, vraiment, de manière très vite, il y avait 5-6 personnes dans la réunion. C'est pas juste une visio avec le président, hein. Là, ils ont vraiment fait tout le staff. Et ils l'ont fait. Alors après, ils l'ont fait pour 25 millions de dollars. Donc à la limite, on peut se dire, ouais, effectivement, là, ça valait le coup, clairement. Mais on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a dites là, que ce soit dans cet épisode, dans les précédents, qui sont de l'ordre du possible. Voilà, c'est possible de le faire. Mais en fait, ces choses possibles, quand il y a 25 millions de dollars à la clé, eh ben dites-vous qu'il y en a qui le font. Donc restez vigilants.
Oui, ben merci beaucoup. On espère qu'on n'a pas démoralisé un peu trop avec cet épisode-ci, parce qu'il était un peu plus tard, mais on va revenir de toute façon, c'est sûr, plus tard sur ce genre de choses-là. De toute façon, il y a des sujets qui ont émergé de la conversation, donc on va probablement y revenir. Et je pense qu'on fait partie du chose, le lien humain. Moi, c'est la clé, le lien humain, le réel. Les salons sont des occasions justement d'établir ce lien de confiance. Je te remercie énormément. Très belle série. C'est très chouette de justement l'aborder de façon de ce découpage-là, puis justement de voir à quel point. Oui, c'est des problèmes, mais oui, il y a des solutions, puis à quel point on est participant dans les solutions associées.
Merci beaucoup à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ces différents épisodes et à très bientôt.